Deux orphelines, deuxième partie, chapitre 6. C'était par une soirée froide et sombre de novembre. Les rues étaient désertes, un brouillard épais enveloppait le marché des innocents. Le Parisien, regagnant son logis, marchait d'un air inquiet derrière le valet qui portait la lanterne. La Frochard et ses deux enfants s'étaient rendus, comme on vient de le voir, au poste qui leur avait été assigné. Jacques marchant d'un pas résolu. Pierre, grelottant, le cœur serré, comme s'il eût pressenti, le pauvre petit, le crime que son père se préparait à commettre. On était arrivé à la première station. La rue du Bout du Monde s'étendait entre ces deux rangées de maisons basses. Pas une lumière aux croisées. Seule la lumière blafarde des réverbères, perçant le brouillard, venait par places éclairer faiblement le sol. La Frochard avait saisi Pierre par la main et l'avait brutalement planté à l'encoignure de la rue. « Tu vas rester là !» dit-elle à voix basse à l'enfant. Et comme le pauvre petit tremblait sous l'étreinte, la mégère lui serra vigoureusement le bras en ajoutant « Tu sais ce que je t'ai dit. Si tu entends venir, ouvre l'œil. Si c'est des soldats, un coup de sifflet et file ensuite, au plus vite, pour aller m'attendre sur le banc du marché. » Et peu soucieuse des soupirs et des larmes du malheureux petit Pierre, elle s'éloigne avec son autre fils. « Toi, mon cher Rubin, recommande-t-elle à Jacques, n'oublie pas la leçon que je t'ai faite. N'aie pas peur, mère, je guetterai les roussins. Si j'en vois un, j'ai mon sifflet. » Et le garnement est allé de lui-même s'accroupir au coin de la rue pendant qu'à son tour, la Frochard se rend à son poste. Elle est là, l'œil au guet, attentive et silencieuse. Elle écoute. Tout à coup, elle fait un mouvement comme pour s'apprêter à siffler. Il lui a semblé que plusieurs ombres, sortant de la brume, venaient de traverser la rue. « Déjà ?» pense-t-elle. Cependant, elle attend encore, dans la crainte de s'être trompée. Les ombres s'approchent et se dessinent plus nettes. Deux commissionnaires apparaissent portant une litière de louage. Ils s'arrêtent, la litière s'ouvre. Un homme, courbé par l'âge, en sort d'un pas chancelant. Il est vêtu d'une douillette qu'il tient soigneusement fermée. Il relève la tête et semble s'assurer qu'il est bien arrivé au lieu où il doit se rendre. Puis, ayant reconnu la maison, il frappe à la porte cochère. Une fenêtre s'ouvre aussitôt, par laquelle, en se penchant, regarde une toute jeune fille. La fenêtre s'est refermée. Le vieillard, d'une voix grêle, congédie les porteurs. Il se dirige alors vers la porte cochère qu'une femme vient d'ouvrir. Mais au moment d'en franchir le seuil, il s'arrête, sort une bourse de sa poche, en tire une pièce de monnaie et s'approchant de la Frochard. « Tenez, pauvre femme, lui dit-il de sa voix cassée, prenez et que le ciel vous assiste. » Puis tout bas il ajoute « N'oublie pas le signal !» Et avant que la Frochard soit revenue de sa surprise, l'homme à la douillette a disparu. La porte s'est refermée derrière lui. Celui qui vient de s'introduire ainsi dans la maison de M. Desfrolan, c'est Frochard, méconnaissable à ce point que sa femme elle-même ne l'a pas d'abord reconnu. Dans la maison de l'avare, le coucou de la salle à manger, située au rez-de-chaussée, vient de sonner 8 heures. Marthe est au chevet de son oncle, tandis que Gertrude va d'une pièce à l'autre pour vaquer aux soins du ménage après le souper. En entendant sonner l'heure, la fillette se lève et, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller le malade qui sommeille depuis quelques instants, elle va à la porte et murmure. « Voici l'heure, cousine Gertrude. Monsieur Durocher ne peut tarder à venir. Ils ne sont pas toujours bien exacts, ces grands médecins. » Mais la phrase est à peine achevée qu'un coup de marteau vigoureusement frappé à la porte cochère a fait sursauter les deux femmes. La jeune fille, comme on l'a vu, s'est élancée à la fenêtre et rentrant aussitôt. « Vite, cousine Gertrude, allez tirer le cordon et éclairer. » « C'est bien Monsieur Durocher, dit-elle. » Mais tandis que la bonne femme, tenant un chandelier, s'empresse de descendre, Marthe attend au haut de l'escalier, le corps penché sur la rampe. Puis, émue à la vue du célèbre praticien, elle s'incline respectueusement et prononce quelques paroles. Mais le nouveau venu lui prend les deux mains avec une douce bonhomie et lui dit « Allons tout de suite auprès de notre malade, cher enfant. Ceci est plus pressé que les compliments d'usage. » On se dirige vers la chambre à coucher. Gertrude précède en éclairant. « Mon oncle vient de s'endormir, » dit la jeune fille. « Tant mieux. Faut-il que je le réveille, monsieur ? Gardez-vous-en bien. Je préfère l'observer pendant son sommeil. » Un mauvais sourire accompagne ces paroles et machinalement, le misérable tourmente de la main droite le manche du long couteau placé dans la poche de son habit. Au moment où Marthe va ouvrir la porte de la chambre, le faux du rocher saisit avant elle le loquet. « Laissez-moi ouvrir, cher enfant. Je ferai plus doucement que vous. J'ai de cela une grande habitude. » La porte s'entrebâille en effet sans le moindre bruit. Le bandit s'arrête une seconde sur le seuil. D'un rapide coup d'œil, il s'est rendu compte de la disposition de la pièce. La caisse est là, dans un coin. Sur le lit, le malade sommeille. Sa respiration est haletante. Gertrude a avancé le bougeoir. La lumière frappe en plein sur le visage blafard de M. Desfrolans. Les yeux fermés sont profondément enfoncés sous l'arcade sourcilière et cerclés de bistre. La bouche serrée, presque sans lèvres, dénote la souffrance. Le prétendu médecin, que les deux femmes interrogent du regard, semble plongé dans de profondes réflexions. Frochard songe, en effet, au danger de son entreprise, à la périlleuse situation dans laquelle il se trouve. Égorger un vieillard endormi n'est chose ni longue ni difficile pour lui. Mais les cris des femmes attireront les voisins. Il serait perdu. Il veut d'abord éloigner Gertrude. « Ma bonne dame, lui dit-il, avez-vous de la tisane toute prête ?»« Oui, monsieur le docteur, répond vivement Marthe, du tilleul qu'a ordonné notre médecin. » « Insuffisant, tout à fait insuffisant, déclare le faux du rocher. Il me faut de la sauge, tout de suite. » « Nous en avons, monsieur, » interrompt Marthe. « Cousine, vous en trouverez dans le tiroir du buffet, en bas. »« C'est bien, » dit Frochard à Gertrude. « Allez, et faites bouillir de l'eau pour l'infusion. » Puis, après une seconde d'hésitation, « Tenez-vous toute prête à verser l'eau bouillante. Je vous appellerai lorsque le moment sera venu de donner à boire au malade. » Gertrude s'est retirée en assourdissant autant que possible le bruit de ses pas sur le parquet dont les lames vermoulues et disjointes crient sous ses pieds. Frochard, tout en feignant d'observer attentivement la respiration du malade, s'est assuré que la servante a refermé la porte. Il l'entend descendre au rez-de-chaussée. Alors, écartant Marthe, il se penche sur le malade. Son visage tout près du visage de M. Desfrolans, les yeux braqués sur ses yeux fermés. Il enlève doucement la couverture. Marthe, anxieuse, s'est rapprochée et peut à peine retenir un cri de surprise. « Que faites-vous » hasarde-t-elle. « Ce que je fais, ma petite, je vais pratiquer une saignée. »« Une saignée ? » dit la jeune fille troublée. « Il faut alors réveiller mon oncle. »« Non, » répond Frochard. « Il s'y refuserait peut-être. Et alors ?»« Alors, monsieur, ce serait un homme perdu. »« Mais pour que vous puissiez pratiquer la saignée, » « Ne faut-il pas qu'il étende le bras ?»« Il le faudrait, en effet, si c'était au bras que je dusse faire l'opération. »« Où serait-ce donc, alors ?»« Vous allez le savoir, » répond Frochard, étalant sur le lit une trousse de médecin. « Mon enfant, » ajoute-t-il d'une voix grave, « l'apoplexie est imminente, et c'est à la gorge que je vais saigner le malade. »« À la gorge ?» balbutie Marthe avec terreur. « Et vous allez m'aider ?»« Moi ?» « Seulement, comme la vue du sang pourrait vous effrayer, vous tiendrez cette cuvette sans regarder et en détournant la tête. »« Non, non, » dit la jeune fille éperdue. « Faites, » répond durement Frochard, « obéissez, obéissez à l'instant, ou c'est vous qui l'aurez tué. » Marthe, en tremblant, apporte la cuvette et, pâle, frémissante, elle attache sous les yeux du médecin ses yeux remplis d'effroi. « Je vous ai dit de ne pas regarder, » ordonne celui-ci. Et au moment où elle détourne la tête, il rejette la lancette qu'il venait de saisir et tirant de sa poche le large coutelas, il le plonge dans la gorge du malade qui pousse en se réveillant un rauque rugissement. Les yeux du moribond se sont rouverts. Il essaye de se débattre, de crier. L'assassin appuie violemment sur son arme qui, élargissant en demi-cercle l'horrible plaie béante, sépare à moitié la tête du tronc. Au cri de la victime, Marthe a tourné la tête, un flot de sang qui jaillit inonde son visage. Elle voit cependant, en essuyant ses yeux, elle voit le malheureux vieillard luttant contre les dernières affres de la mort, elle voit les soubresauts de l'agonie et le sang qui coule à grands flots. Affolée d'épouvante, elle va crier. La main ensanglantée du bandit la saisit à la gorge et étouffe ce cri prêt à s'en échapper. Marthe se débat sous l'étreinte. Le misérable fait alors de ses deux mains réunies un collier de fer qui étrangle la malheureuse jeune fille. Elle se débat encore, et comme la mort ne vient pas assez vite, il frappe. Le couteau, déjà rouge du sang de l'homme, s'enfonce dans la poitrine de l'enfant qui tombe en expirant. Alors, le meurtrier s'arrête, haletant et comme pris de vertige. Ce sang dont il est couvert lui monte au cerveau et le grise. Son visage hideux s'éclaire d'un sourire féroce. Les pieds dans le sang, il marche vers la caisse. Au rez-de-chaussée, Gertrude a pénétré dans la salle à manger. Elle a placé sur la table le bol destiné à faire la tisane et prenant la bouilloire, elle s'apprête à faire l'infusion. Mais en ce moment, elle s'arrête. Il lui a semblé entendre au-dessus de sa tête des trépignements et le bruit d'un corps qui s'affaisse. Elle écoute, plus rien. Au bout de quelques secondes, elle perçoit cependant un bruit nouveau, sourd et réitéré, semblable à celui que produiraient des gouttes d'eau tombant une à une. Instinctivement, elle lève les yeux vers le plafond. Ce plafond suinte par les interstices. Une goutte de liquide tombe au milieu du bol qu'elle tient à la main et fait une tache rouge. « Qu'est-ce que cela ? » se dit la servante effrayée. Puis, au moment où elle regarde, un long filet de ce liquide s'échappe du plafond, éteint en rouge la table presque entière. « Horreur ! C'est du sang !» Gertrude a laissé échapper la bouilloire qu'elle tenait à la main et bondit vers la porte. « Que se passe-t-il donc là-haut ? Pourquoi ce sang ?» Tout à coup, elle se rappelle le bruit qu'elle a entendu, le bruit d'un corps qui s'affaisse. Terrifiée, elle monte rapidement l'escalier. Elle arrive, haletante, à la porte de la chambre. Elle ouvre brusquement. Un cri s'échappe de sa gorge. L'épouvantable scène lui apparaît dans toute son horreur. À demi-morte de terreur, elle voit s'avancer vers elle l'assassin, tout couvert de sang et le couteau à la main. Elle s'enfuit, attirant la porte qu'elle ferme d'un double tour de clé. Puis, se précipitant à la croisée, elle appelle au secours. Cramponnée des deux mains à l'appui de la fenêtre, elle crie « À l'assassin ! À l'assassin !» Frochard s'arrête devant cette porte qui s'est refermée. Il est prisonnier. Et Gertrude, éperdue, continue d'appeler. Le bandit ne pense plus à accomplir son vol. Il veut fuir, fuir sur le champ. Il s'est jeté contre la porte. Ses mains impriment sur le panneau des traces sanglantes. La porte résiste. Il se sert de son épaule comme d'un bélier et sa chair se meurtrit contre le bois qui ne cède pas sous ses efforts. Le sang monte au cerveau du misérable et fait tinter ses oreilles. Gertrude crie toujours. Et Frochard entend ces mots répétés sans cesse. « À l'assassin ! À l'assassin !» Dans un effort furieux, il a fait craquer le panneau. Cette fois, la porte va céder. Tout à coup, le bruit d'un corps qui tombe se produit. Il se retourne. L'une de ses victimes est là, devant lui, rampant sur le parquet. Le cadavre s'est ranimé et se traîne, sur ses mains crispées. L'horrible blessure qu'il porte à la gorge s'étale, toute béante. Monsieur Desfrolans, luttant encore contre l'agonie, vient maintenant au-devant de son meurtrier. Il rampe dans le sang et ses doigts s'accrochent aux jambes de l'assassin. Frochard pousse un cri de rage et de son talon, il meurtrit ce visage convulsé. Il frappe sur ses yeux qui n'ont plus de regard. C'est l'ivresse du carnage, le vertige du crime. Il frappe de nouveau et le corps pantelant de l'assassiné le suit comme rivé à lui. Soudain, un coup de sifflet se fait entendre. Le signal. Frochard a tressailli et son sang s'est figé dans ses veines. Il faut fuir, il le faut. Un second coup de sifflet le cloue sur place. Puis un troisième retentit, aigu, strident. C'est le signal de la Frochard. Et en même temps, des pas résonnent dans l'escalier. On monte. Un cliquetis d'armes. Puis la porte s'ouvre avec fracas. À la vue des soldats du guet et des agents accourus au cri de la servante, Frochard s'élance, le couteau levé. La lutte commence entre le forcené et les soldats. Lutte acharnée, entrecoupée de vociférations et de rugissements. Le bandit se défend comme un lion blessé et son arme fourrage dans la masse de ses adversaires. Épuisé, le misérable lutte encore. Vaincu, Il tente un dernier effort et se lance tête baissée contre la muraille humaine. Enfin, accablé, brisé, il tombe et pousse une dernière imprécation. Après avoir donné le signal en apercevant les soldats à travers le brouillard, chacun des frochards, placé en observation, s'était empressé de déguerpir pour se rendre à l'endroit convenu. La mère arrive la dernière, haletante, elle entraîne Jacques et Pierre qui l'attendaient sur un banc du marché des innocents. En route, la complice de l'assassin laissait échapper des exclamations, des phrases incohérentes. Elle se demandait si Frochard avait pu réaliser son coup et s'échapper à temps. Et affolée, elle murmurait « Va-t-il revenir ?» C'est aux prises avec de mortelles angoisses que la misérable créature est arrivée chez elle. Elle ouvre la porte de son logement et se précipite à la fenêtre, cherchant son mari du regard. Les enfants, épuisés de fatigue, se sont endormis. Attentive au moindre bruit de la rue, la Frochard attendit ainsi toute la nuit, partagée entre des espérances et des déceptions sans cesse renouvelées. Elle attendit, comptant les heures que lui envoyaient les horloges des environs. Les cloches sonnaient dans le silence de la nuit, et chaque fois la femme du bandit tressaillait. Lorsque l'aube parut, la Frochard se sentit devenir folle. Les yeux hagards, elle ouvrit toute grande la croisée et plongea désespérément son regard dans la rue déserte. Le bandit ne devait pas revenir. On sait que, se sentant perdu, Frochard s'était défendu avec rage. On avait dû le bâillonner pour l'empêcher de pousser des hurlements et d'horribles imprécations. Il fallut le lier, l'entourer de cordes solides pour l'entraîner au poste de police où il fut gardé à vue pendant qu'on était allé prévenir le chevalier du guet de l'importante arrestation que l'on venait d'opérer. Au petit jour, le prisonnier fut conduit au Châtelet. La terreur causée par le récit des attentats, qui chaque jour se renouvelait, était si grande que la nouvelle de cette importante capture se répandit avec rapidité. Comme elle avait eu lieu dans le quartier du marché, les dames de la halle proféraient de violentes imprécations contre le misérable qui avait trempé ses mains dans le sang d'un enfant. L'indignation était surexcitée à tel point que si la police n'eut pris soin de faire partir le prisonnier dans un carrosse fermé, le peuple l'eût certainement mis en pièces. La Frochard, pleine d'angoisse, était descendue comme une folle, courant avec tous ceux qui se portaient en foule vers le quartier où avait été commis le crime. En entendant les malédictions proférées contre le monstre qui avait fait preuve, disait-on, d'une cruauté sans exemple, la femme du bandit frissonnait et ses dents claquaient. Elle ne parvenait pas à dominer cette violente agitation. Et tout ce monde, d'une voix unanime, demandait pour le misérable les supplices les plus terribles. « On ne pourra jamais assez le faire souffrir, disait-on. Il faut le faire passer à la question. Oui, car il doit avoir des complices. » Une femme de la halle ne réclamait rien moins que de le voir brûler vif. Elle se chargeait, ajoutait-elle, dans sa furieuse indignation, d'attiser elle-même le bûcher. « On ne brûle que les parricides et les empoisonneurs, » avait fait observer quelqu'un. « Il faudra, la mère, vous contenter de le voir rouer vif. » À ces mots, « rouer vif », qui indiquait l'atroce supplice qui attendait son mari, la Frochard étouffa un cri de rage. Et la tête perdue, elle se mit à courir dans la direction de la rue du bout du monde. Elle voulait revoir cette maison où le crime avait été commis pendant qu'elle et ses enfants faisaient le guet. Ayant appris là que le prisonnier avait été conduit à la prison du Grand Châtelet, elle s'y rendit aussitôt dans l'espoir de le revoir encore. La justice, dès la première nouvelle du crime, s'était transportée dans la maison de M. Desfrolans. On avait procédé aux constatations d'usage. Les deux corps avaient été placés chacun sur un lit. Mais il avait été impossible d'interroger Gertrude, la seule survivante de cette famille. La malheureuse femme, après une agitation cérébrale des plus violentes, était tombée dans un état complet de prostration. Il y avait sérieusement à craindre pour sa raison. Du reste, le flagrant délit simplifiait la procédure qui ne pouvait guère traîner en longueur. Les juges instruisirent rapidement le procès. Le prévenu s'était au surplus renfermé dans un mutisme absolu. Par son attitude énergique, provocante même, il semblait dire au juge « Vous pouvez faire de moi tout ce qu'il vous plaira, je ne tremblerai pas devant vous. » La sentence fut rendue. Elle portait que Frochard, convaincu d'assassinat avec préméditation, sur la personne de Monsieur Défrolan et de Marthe, sa nièce, serait conduit à l'échafaud, dressé en place de grève, aurait les bras, les jambes, les cuisses et les reins rompus vifs, et qu'il serait ensuite placé sur la roue, le visage tourné vers le ciel, pour demeurer là, aussi longtemps qu'il plairait à Dieu lui conserver la vie. Le Parlement confirma la sentence et renvoya le condamné au lieutenant criminel pour qu'il fît exécuter l'arrêt. On sut presque aussitôt dans Paris que l'exécution allait avoir lieu. Et comme, depuis l'avènement de Louis XVI, le supplice de la roue devenait assez rare, on vit des grands seigneurs et de très nobles dames faire retenir d'avance toutes les croisées qui donnaient sur la place de Grève. Le crime avait soulevé dans la population un sentiment d'horreur que la condamnation de l'assassin n'avait pu calmer, et il était certain qu'un grand concours de spectateurs se presserait sur le passage de la charrette. On ménageait aux condamnés, dans ce public devenu féroce en haine des malfaiteurs, une manifestation qui, pensait-on, pourrait impressionner les autres scélérats. Et dans son impatience, bien que l'exécution ne dût avoir lieu qu'à 4 heures de l'après-midi, la foule, dès le matin, commençait à se masser aux angles de la place. Le lendemain du crime, aussitôt que le nom du condamné fut publiquement connu, la Frochard s'était empressée de quitter le logement qu'elle occupait. Elle s'enfuit, emmenant ses deux fils dans un des quartiers de la banlieue qu'elle avait habité lors de son arrivée à Paris. C'était un de ces faubourgs où les malfaiteurs avaient coutume de chercher asile. Elle attendit, dans cette nouvelle demeure, le jour fixé pour l'exécution de son homme. Les enfants, inquiets de la voir agitée et les yeux rouges de larmes que sa rage impuissante faisait jaillir, s'informaient de ce qu'était devenu leur père. « Il est parti en voyage !» avait répondu brusquement la Frochard à la question timide que lui avait adressée Pierre. Puis à Jacques, « Nous le reverrons bientôt. Attendons. »« Oui, nous le reverrons. Je le lui ai promis. Nous serons là tous les trois. » Elle se souvenait que Frochard lui avait dit « Si je monte un jour sur la terrible plateforme, je veux que vous soyez là. Là, vous autres. »« Oui, oui, » murmurait-elle, « nous y serons tous. Tu nous verras une dernière fois, et au moment de ton supplice, nous jurerons de te venger. » Pendant la matinée du jour qui allait voir Frochard, mourant, comme la plupart de ses ancêtres, par la main du bourreau, sa femme, traînant ses deux enfants après elle, quitta le quartier où elle s'était réfugiée et se rendit à la place de Grève. Bien qu'il ne fût que midi, les soldats avaient pris possession de la place qu'ils durent faire évacuer à plusieurs reprises. Mais la foule grossissait de minute en minute. Il fallut aller quérir du renfort pour maintenir au débouché des rues adjacentes les masses qui s'entassaient, cherchant à se placer le plus près possible de l'échafaud. La Frochard, tenant de chaque main un de ses enfants, demeurait clouée au premier rang de ceux qui bordaient le parapet du quai. De là, elle verrait passer la charrette. Elle apercevrait son homme. Elle lui adresserait un suprême adieu. Bientôt, au frémissement qui parcourut l'assistance, elle comprit que le terrible moment était arrivé. Du haut des balcons et aux croisées, des dames indiquaient par leurs gestes que le funèbre cortège arrivait sur la place. Une immense clameur accueillit la voiture. En tête, ouvrant la marche, un détachement de la maréchaussée déblayait le passage et repoussait la foule. On n'avait pas prévu qu'un aussi grand nombre de spectateurs dût assister à cette lugubre exécution. Le nom de Frochard, ignoré la veille encore, avait acquis en quelques heures une immense célébrité. On savait maintenant qu'il appartenait à une famille de criminels qui tous avaient expié aux galères ou sur l'échafaud leurs abominables forfaits, et c'est avec une fiévreuse impatience qu'on attendait le châtiment du misérable qui avait, avec une cruauté sans égale, égorgé une pauvre jeune fille sur le corps sanglant de son oncle. On voulait voir ce monstre auquel on s'apprêtait à lancer des malédictions aussi longtemps qu'il pourrait les entendre. Tout ce peuple, que l'indignation rendait presque féroce, voulait faire une terrible agonie aux criminels que l'on conduisait au supplice. Lorsque la charrette parut, escortée d'un détachement de soldats, chacun se précipita en avant, poussant des cris, montrant le poing au condamné, interpellant le bourreau pour qu'il n'eût aucune pitié de l'odieux assassin et prolongeât ses tortures. Le tumulte était à son comble lorsque la charrette s'arrêta devant la plateforme. Frochard se leva fièrement sans l'aide du bourreau. Sa haute taille se dessina droite et ferme. Le misérable semblait se faire de l'échafaud un piédestal et refoulant au fond de son âme l'invincible terreur qui s'empare, au moment de leur supplice, des plus endurcis criminels, il essaya, dans un reste d'orgueil, de répondre par un regard de souverain mépris aux malédictions de la foule. Puis, promenant ses yeux tout autour de la place, il sembla chercher ceux qu'il savait devoir être là. La Frochard le comprit. Elle saisit ses enfants par la main et résolument, elle s'efforça de traverser la place. Elle voulait arriver jusqu'au pied de la fatale plateforme et se montrer à celui qui allait mourir. Elle voulait qu'il sût bien, à ce moment suprême, qu'elle n'avait pas oublié la promesse que le bandit avait exigée d'elle. Repoussée, elle s'acharna à marcher quand même, à renverser tous les obstacles. À force d'énergique persévérance, elle parvint enfin à son but. Quelques pas la séparaient à peine, maintenant, des soldats qui formaient la haie autour de l'échafaud. Et au moment où le bourreau posa sa main sur l'épaule du condamné, qui désormais lui appartenait, la Frochard saisit Jacques par-dessous les aisselles, et pour qu'il se souvînt, pour faire naître en son cœur des sentiments de haine et de vengeance contre ceux qui avaient condamné son père, elle tint l'enfant élevé et le visage tourné vers l'échafaud. Elle crut, du moins, avoir fait cela. Mais dans son trouble, dans son épouvante, dans le violent désespoir qui égarait sa raison, elle avait pris pour l'aîné le plus jeune de ses deux fils. Et c'est le pauvre petit Pierre, c'est le faible et doux enfant qu'elle présentait à son père. Les yeux du condamné rencontrèrent les yeux du malheureux petit être. Deux grands yeux qui pleuraient et qui regardaient le ciel. Que se passa-t-il, en ce moment suprême, entre ces deux créatures, l'une entrant à peine dans la vie, l'autre au seuil de la mort? Quelle influence magnétique exerça tout à coup entre cette âme innocente et pure, cette âme criminelle? « Père! Père !» criait l'enfant, regardant toujours le condamné et les bras tendus vers le ciel. Et Frochard, à l'aspect de son enfant, restait immobile, l'œil hagard et la bouche béante. Il tremblait. Oui, lui, Frochard, il tremblait. Il détourna la tête et se trouva face à face avec le vénérable prêtre qui l'avait accompagné jusqu'au lieu du supplice. Et celui-là aussi semblait lui montrer le ciel. Alors, et en moins d'une seconde, il vit se dérouler devant ses yeux tous les forfaits de sa vie passée. Il vit tourbillonner autour de lui toutes les victimes qu'il avait égorgées, les femmes, le vieillard, les enfants. Et tous semblaient aussi lui montrer le ciel, et tous semblaient lui dire « Là est le véritable juge, là est le juge suprême. » Et dans cette même seconde, il sentit naître, grandir, puis éclater comme la foudre tous les remords dont il avait, à chaque crime nouveau, étouffé le germe dans son âme de fer. Et pendant ce temps, « Père !» criait toujours le pauvre petit Pierre. Lui, alors, rempli d'épouvante, de terreur, brisé, pantelant, dompté, enfin, et vaincu. « Prenez-moi » dit-il au bourreau, « prenez-moi vite !» Et se tournant éperdu vers le prêtre, il murmura tout bas, « Priez pour moi, priez !» Le supplice commença. Le bourreau avait livré le patient à ses aides qui l'attachaient solidement à l'échafaud, les quatre membres écartés, la tête appuyée sur la plateforme, la face tournée vers le ciel. Dans le tumulte qui se produisit au moment où le bourreau avait saisi la barre de fer qui allait lui servir à rompre le patient, se perdit le cri d'horreur qui s'échappa de la gorge de la Frochard. Et cependant, ses regards ne quittèrent pas l'échafaud. Les yeux secs, brillants d'une fièvre ardente, elle resta là, dans l'attitude d'une folle furieuse. Tout à coup, la barre retomba avec un bruit sourd, auquel répondit un cri terrible que la douleur arrachait au patient. Un nuage de sang avait passé comme un éclair devant les yeux de la Frochard. Un feu intérieur lui brûlait les veines. Mais pas une exclamation ne sortit de ses lèvres. Les yeux comme rivés sur la plateforme, elle comptait. « Un !» fit-elle. La barre de fer retomba, faisant jaillir des flots de sang. Des éclaboussures de la chair pantelante arrivèrent jusque sur les aides. « Deux !» hurla la Frochard. Cette fois, le patient avait poussé un rugissement prolongé, couvert par les clameurs de la foule. La terrible barre de fer lui avait broyé la cuisse. Frappée d'horreur, la foule, après ces violentes manifestations, observait un silence lugubre. Le bourreau accomplissait sa redoutable mission, exécutant une à une toutes les clauses de l'arrêt. « Trois, quatre, cinq, six !» avait pour ainsi dire râlé la Frochard. Et lorsque le corps du patient ne présenta plus que l'aspect d'une masse hideuse, l'ordre fut donné aux aides d'attacher ce corps meurtri sur la roue, afin qu'il restât exposé jusqu'à ce que la mort vînt mettre un terme aux tortures du supplicié. Folle et perdue, la Frochard promena autour d'elle ses yeux hagards. Elle vit Jacques, accroupi, les poings serrés sur sa bouche, étouffant ses cris de désespoir et de rage. Le petit Pierre gisait, évanoui, sur le sol. La foule s'écoula lentement par toutes les issues de la place, et il fallut que la maréchaussée se mît en devoir de rétablir la circulation, pour que la femme du supplicié se laissât entraîner avec ses deux enfants que la loi venait de faire orphelins. Elle se retrouva sur les quais. Là, elle s'arrêta de nouveau, et seulement alors, la réaction se produisant en elle, sa douleur se manifesta par une terrible crise nerveuse. Elle dévorait ses lèvres pour retenir ses sanglots et ses cris. Affaissée sur un banc, enfonçant ses ongles dans le bois, elle passa par de rudes tortures morales, mais toute sa coupable existence écoulée ne lui inspira ni un regret ni un remords. La Frochard n'éprouva de l'épouvantable châtiment dont elle venait d'avoir le spectacle qu'une haine implacable contre la société. Elle n'y puisa qu'une nouvelle ardeur de vengeance. Et lorsqu'après cette longue station, à proximité de la place où venait de mourir son homme, elle eut retrouvé l'apaisement des sanglots et que la détente des nerfs l'eut rendue à elle-même, la perverse créature attira à elle ses deux enfants et leur indiquant du doigt la place de grève, « Vous n'avez plus de père, » leur dit-elle d'une voix rauque. « Ils l'ont massacré. Ils lui ont déchiré les chairs. Ils ont brisé ses os. Il ne faut pas oublier ça, vous autres. » Pierre se remit à pleurer. Il ne comprenait qu'une chose, le pauvre petit être. Son père était mort. Et il se lamentait à la pensée qu'il ne le verrait plus jamais, jamais. Il ne savait pas qu'il allait désormais s'appeler le fils du supplicié. Il ne se doutait pas qu'il n'y aurait plus pour lui ni jeu ni plaisir de son âge et que les autres enfants le fuiraient comme un paria chaque fois qu'il s'approcherait d'eux. Il pleurait ce père infâme comme il l'eût pleuré s'il eût été vertueux et bon. Agenouillé devant le banc et le visage dans les mains, il sanglotait. La Frochard se détourna de lui pour reporter toute sa tendresse sur Jacques, son préféré. « Viens, » fit-elle en le prenant dans ses bras. « Tu ne pleures pas, toi. Ce n'est pas avec des larmes que nous vengerons ton père. » Jacques, les yeux secs, n'avait pas en effet trouvé un sanglot qui témoigna d'une douleur sincère. Il avait déjà un cœur de bronze, ce vaurien précoce. Son père lui avait bien transmis le sang des criminels de sa race. La nuit était venue. La famille Frochard se remit en marche vers le bouge où elle avait trouvé à se loger depuis l'arrestation de l'assassin de la rue du Bout du Monde.